Mobile studio.
Studio mobile, radio du roi, ici et là. Aude, bonjour, vous êtes présente à ces rencontres organisées par Relié à Saillant du 10 au 13 septembre où avaient lieu des ateliers de réflexion, de parole, avec des rendus en séance plénière de ce qui synthétisait ou qui introduisait ces deux ou trois journées. Quel est votre bilan par rapport à ces trois journées, vous en tant que membre actif d'une association ?
Donc moi je suis effectivement salariée de l'association La Manufacture des Paysages. On était plus particulièrement là aussi sur les sujets d'accueil, de participation des habitants à l'aménagement de l'espace, de tout ce qui sont les dynamiques que peuvent créer voilà, l'arrivée de nouveaux habitants dans un territoire. Et du coup, le bilan que je tire, c'est que, un peu par rapport à l'atelier auquel j'ai participé, c'est que d'un côté, c'est très enthousiasmant parce qu'on voit qu'il y a plein de choses qui sont... que c'est quand même toutes ces démarches participatives sur les questions d'aménagement de l'espace, d'appropriation de l'espace public, se développent de plus, il y en a dans la France, en milieu urbain comme en milieu rural. Et en plus de ça, on voit que de plus en plus une diversité de métiers ou d'acteurs, on va dire, voilà, tant du monde social que du monde architecture, de l'urbanisme, des paysages, que des gens autour de la culture. Autant d'acteurs se saisissent en fait de ces démarches-là et se croisent sur des projets qui mettent au cœur l'habitant. Donc ça, moi, je trouve que c'est vraiment très enthousiasmant parce que commence à y avoir des retours sur expérience, des envies de dépasser certains cadres. C'est vraiment satisfaisant. Et l'autre chose aussi, c'est ce que j'ai vraiment trouvé intéressant, c'est qu'on a su parler aussi de la dimension politique de tout ça. C'est-à-dire qu'effectivement, on vient bousculer le cadre des institutions par ces démarches, parce qu'on est sur des projets vivants qui mettent au cœur l'habitant, qui mettent au cœur la transversalité, et que du coup, ça ne rentre pas toujours dans les cases des institutions et que ça oblige à travailler avec eux, à repenser aussi la façon de faire aujourd'hui des aménagements. Et en même temps, ça fait aussi... Ça donne une place plus forte à l'habitant et on voit aussi que derrière, du coup, l'habitant est en demande de plus en plus de s'impliquer dans la vie de sa commune, de son territoire et que du coup, ça fait bouger les lignes aussi sur les questions sur le plan démocratique, quoi.
Il y avait le spectacle de Nicolas Debray qui s'était joué jeudi soir ici et où il comparait le rassemblement des vieux mâles blancs du conseil municipal. C'est une image que vous voulez combattre aussi, c'est ça ? Donc, mis à part ceux qui votent parce qu'on leur dit de voter, c'est bien. Est-ce que vous préconisez toujours à ce qu'un conseil municipal soit élu si ce n'est pas pour plaire à ses concitoyens ?
Notre cœur d'action, il n'est pas tant sur la question du vote, etc. Après, c'est sûr que moi, je pense que tout conseil municipal qui va... l'exemple de Saillant est assez intéressant pour ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, qu'une équipe municipale émane d'une démarche plus large au départ, moi, je trouve ça intéressant parce que ça veut dire qu'on est sûrement plus proche du besoin, des préoccupations des personnes qui vivent la commune. Et si en plus, une fois qu'on est élu, il y a aussi des espaces au sein desquels les habitants non élus peuvent participer. On a parlé, nous, de garants et de veille comme rôle possible pour les habitants. Moi, je trouve ça plutôt intéressant. Et surtout, quand on est sur ces questions d'urbanisme, on voit bien que... on dépasse la question de l'individu, donc ça demande de toute façon des cadres un peu collectifs où on puisse en parler. Le cadre que peut mettre en place une équipe municipale avec des commissions, etc., ça peut être vraiment très intéressant. Donc moi je pense qu'effectivement, si on veut faire vivre la participation au-delà du temps d'un projet participatif, ça demande au niveau local et puis je pense peut-être au niveau intercommunal, parce que c'est un endroit aussi où aujourd'hui l'habitant a finalement peu de prise, ça demande à ce que les choses peut-être elles évoluent.
Est-ce que on peut comparer les démarches qui sont faites au niveau rural par rapport à un modèle de société en recherche ? Est-ce que ces pratiques peuvent exister dans les cités urbaines, voire des villes ?
Alors sur un conseil municipal, là encore, moi je ne suis pas experte là-dessus. Par contre, la question de la participation des habitants et des projets, voilà, d'espaces publics, des projets, des lieux où on réfléchit à l'avenir de son quartier, de sa ville, de son village, je pense que ces dynamiques existent aujourd'hui tant dans le milieu urbain que dans le milieu rural. Et quand vous faites, voilà, quand on voit des structures, alors nous, la manufacture des paysages, on est plutôt sur des questions de milieu rural, périurbain, mais il y a des structures... comme il y avait ici présent le collectif ETC, on voit bien qu'ils agissent tant en milieu rural qu'en milieu urbain. Donc aujourd'hui, si on fait un peu le panorama des initiatives qui existent, où les habitants voilà, se réapproprient l'espace public, les chantiers participatifs, etc., on en voit aujourd'hui, je dirais, dans plein de milieux différents. Après, la façon dont c'est accueilli par les conseils municipaux ou autres, je pense que c'est assez variable et je ne pourrais pas aujourd'hui voilà, faire de généralité là-dessus, quoi.
J'ai une question par rapport aux collectivités locales. Comment ça se passe quand vous travaillez avec ? Est-ce qu'il y a des contacts ?
Ah oui, parce que donc, nous, on travaille vraiment sur ces questions d'aménagement du territoire et d'aménagement d'un espace, par exemple d'une place, etc. Et oui, même ça arrive que des fois, la commande vienne d'une mairie, par exemple. Donc à ce moment-là, il y a un travail de partenariat. Et c'est sûr, c'est ce qu'on discutait un peu dans les ateliers, c'est que finalement, aujourd'hui, dans les missions... qu'on peut avoir d'accompagnement de démarches participatives sur ces questions d'espace public, par exemple. Une partie du travail est vraiment comment on va travailler avec les habitants, mobiliser, favoriser le dialogue, etc. Mais une autre partie, c'est vraiment un travail aussi en interne avec, par exemple, une commune, mais aussi avec les autres partenaires de la commune, que pourront être une communauté de communes, par exemple, ou autre. Et il y a vraiment un travail de médiation et d'accompagnement aussi à ce niveau-là, c'est-à-dire déjà travailler avec les élus sur comment eux, ils vont accueillir la parole des habitants et comment, du coup, ils vont devoir échanger à partir de ça, revenir vers la population par rapport à la prise de décision, par exemple. Comment aussi, vu qu'on change la façon d'envisager le projet, c'est comment, du coup, ces nouvelles démarches de projet, ils arrivent aussi à les défendre auprès d'autres partenaires publics. Mais c'est vrai que, bon, en tout cas, quand une collectivité a eu envie de travailler avec nous, c'est vrai qu'on est plus dans une relation de partenariat et ça se passe bien. Mais chacun, c'est une formation permanente, je dirais, quoi. On apprend à se connaître, à comprendre les réalités des uns et des autres et puis à travailler par rapport à leur cadre, comment on arrive à faire un peu bouger les lignes et à amener de la place pour ces démarches-là, tout en avançant dans leurs objectifs, parce que ils ont aussi des contraintes et dont il faut prendre compte, mais qui sont pas forcément contraignantes pour le projet non plus, quoi.
Aude, je voulais savoir, qu'est-ce qui t'a motivé à un moment de ta vie à œuvrer pour cette association, par exemple, ou le mouvement qu'il représente ?
C'est toujours une succession de choses, mais moi, ce qui m'a motivée en tout cas, c'était l'envie de plus prendre en compte l'humain, la fabrication des territoires, même si c'est un mot un peu vague, notamment des paysages, puisque c'est quand même le paysage qui m'a amené à l'urbanisme. Et puis assez vite, l'humain, on se rend compte que c'est pas juste des individus, c'est que l'humain, c'est plusieurs individus qu'il faut arriver à faire dialoguer avec des casquettes différentes qui peuvent parfois sembler opposées. Donc comment tout ce monde-là qui habite et vit et agit sur un territoire, comment on arrive à créer des liens, à faire se rencontrer pour être en capacité de choisir l'avenir d'un territoire. Moi, c'est ça, je crois, qui m'anime au fond. C'est comment, aujourd'hui, on essaye d'aller vers des territoires où on est heureux d'habiter, où on est respectueux d'un cadre de vie et où on fait ensemble, sur mesure, à partir du territoire et de ses habitants. Donc c'est ça qui m'anime. Je dirais tant en tant que professionnelle qu'en tant qu'habitante aussi. Parce que je me dis, voilà, moi, si je suis aussi habitante d'un territoire et si tout ça peut prendre vie, voilà, ça ne sera que mieux aussi pour moi en tant qu'habitante.
Est-ce que vous avez des exemples concrets de ce que vous avez créé, en quelque sorte, avec la fabrique du paysage ? La manufacture du paysage.
Oui, il y a des exemples concrets. Là, actuellement, par exemple, on travaille avec une commune, une petite commune de 450 habitants, qui a un terrain à un endroit voilà, un peu important pour la commune et qui se dit voilà, qu'est-ce qu'on va faire sur ce terrain ? On a des besoins aujourd'hui, on a un besoin de créer des logements, un besoin de trouver un local pour des associations parce qu'on manque de locaux communaux. Il y a un besoin aussi de réaménager l'espace public. On travaille actuellement donc avec la mairie, mais aussi du coup avec les habitants, sur quoi faire de ce grand terrain qui fait à peu près 3-4 000 mètres carrés, sur quel type d'habitat, quel type de logement accueillir et comment ce terrain va vivre et va s'insérer dans la vie de la commune aujourd'hui. Donc voilà, concrètement, du coup, ça prend... On fait des travaux en atelier, on va voir le site, on l'observe, on échange un peu les perceptions des uns et des autres dessus. Et puis un architecte accompagne la conception de ce qui va se passer sur le terrain, par exemple. Autre exemple, après nous, on travaille aussi, on fait des ponts de plus en plus avec le milieu culturel, et notamment sur des actions de sensibilisation. Donc à ce moment-là, on crée par exemple des balades dans des lieux où on va venir... proposer aux habitants et au public qui veut venir de chausser les regards d'urbanistes, d'artistes, d'élus sur ce territoire-là et du coup de créer des espaces d'échange et des moments d'échange sur c'est quoi les sujets prioritaires, quels sont les endroits, quels sont les sujets plutôt à conflit, est-ce qu'ils sont conflictuels réellement ou est-ce que c'est juste que il y a plusieurs peut-être possibilités qu'on n'a pas envisagées, donc voilà, de créer aussi des espaces d'échange concrets, visiter des expériences aussi intéressantes. Quelqu'un qui a réhabilité une maison avec une ancienne maison par exemple et qui l'a adapté au mode de vie d'aujourd'hui pour aussi se dire est-ce que l'habitat ancien il est plus adapté à nos modes de vie ou pas, et du coup voir comment on peut transformer aussi le patrimoine et comment on peut réinventer le territoire sur lui-même aussi quoi. Donc c'est un petit peu ça, voilà, donc ça prend des formes très différentes en fonction des sujets, des partenariats, des envies.
C'est bien dans l'Hérault, le pont voilà. De Millau.
Ah, c'est dans l'Aveyron. On n'est pas loin.
Vous n'êtes pas loin, vous le voyez des fois ?
Oui, quand j'y passe. Mais
est-ce que le pont de Millau, c'est un bel exemple d'un édifice qui relie les gens ?
Ah, je crois que c'est plus compliqué que ça. Hein.
Sous-entendu que ce qu'il y a en dessous est oublié. Aude, est-ce qu'il y a un moyen de vous trouver sur Internet ?
Si vous passez par l'Hérault, déjà, vous êtes bienvenue. On est aux alentours de l'Audève, au lac du Salagou. Sinon, pour aller visiter le site de l'association, c'est www.lamanufacturedespaysages.org. Et là, vous aurez voilà, un certain nombre de nos actualités, de nos projets que nous avons réalisés, nos coordonnées. Et ne pas hésiter à nous envoyer un mail ou à nous appeler s'il y a des gens qui veulent plus d'informations.
Vous n'avez rien à annoncer prochainement, une formation ou un stage ou un événement de votre côté ?
Ah ben si, on fait pour les journées du patrimoine justement, là le week-end prochain, donc 19 et 20 septembre, on organise une balade sur à quoi ressemblera le patrimoine de demain, donc justement questionner l'avenir des villages, donc le samedi, et puis le dimanche des visites de maisons et aussi de maisons de lotissement qui ont été rénovées par leurs habitants. Tout ça dans l'Hérault, et je dirais que pour ceux que ça intéresse d'aller voir sur le site pour les précisions pratiques.
Merci Aude, au revoir.
Merci à vous et ravi d'être parmi vous.
Dans le cadre des trois journées de reliés qui ont lieu du 10 au 13 septembre à Saillant, vient au micro Murray Nelson, qui est de la Manufacture des Paysages, c'est ça ?
Oui, je suis président de la Manufacture des Paysages, association qui est basée dans le nord de l'Hérault, à côté de l'Audève, qui travaille sur l'urbanisme et le paysage. Et notre travail se situe à la fois auprès des collectivités qu'on aide, dans les volets de concertation autour de l'urbanisme. C'est aussi auprès des scolaires, puisqu'on fait des interventions, notamment sur le paysage, sensibilisation à l'urbanisme et sur le paysage dans les écoles. Et puis, on monte aussi régulièrement des actions en direction du grand public pour les sensibiliser aux enjeux de toutes ces choses-là.
Et évoque un écho en vous par rapport à ce que vous faites depuis des années.
Oui, moi je suis donc impliqué dans ce que l'on appelait autrefois le développement local, on a appelé aussi développement rural, on a appelé aussi animation rurale, etc. À divers titres depuis, je ne sais pas, peut-être 25 ans, j'ai été... prof en lycée agricole dans ces disciplines-là. J'ai été animateur d'associations dans différents endroits. Je suis arrivé dans l'Hérault donc il y a 5 ans et je suis devenu président de l'association assez rapidement. Et en ce faisant, effectivement, j'ai fait connaissance avec le réseau relié et je trouvais qu'il y avait tout de suite des échos avec toutes les préoccupations que je peux avoir.
Tout à l'heure, une dame m'abordait pour me dire ce que vous aviez tenu comme propos lors de ces ateliers qui vont continuer encore. Particulièrement, disons, une nouvelle distribution, une nouvelle manière de distribuer les services des eaux, par exemple.
Oui, alors ça c'est, là je disais que je suis président de la Manufacture des Paysages, je suis également animateur, fondateur d'une autre association qui s'appelle Énergie Citoyenne, et puis j'ai tendance à mêler un peu les deux, puisque de toute façon il y a des objectifs croisés dans ces deux associations. En fait, ce dont on a parlé tout à l'heure, au titre de la Manufacture des Paysages, la première chose c'était qu'on m'avait demandé quel impact de ces événements que l'on crée pour le grand public. Notamment, il y avait un événement il y a un peu plus d'un an maintenant qui s'appelait En voiture Simone, qui visait à traiter de la question de la mobilité en ville, autour des villes, etc. Et j'étais obligé de répondre que oui, effectivement, on avait fait plein d'animations en faisant des balades piétons à travers la ville, avec des circuits en vélo, des projections, des conférences, etc. Mais pour autant, on ne va pas constater tout de suite que les trottoirs ont été élargis, qu'il y a des pistes cyclables partout. C'est un travail qui est néanmoins nécessaire, c'est un travail à long terme. Je ne désespère pas que dans les étapes successives d'aménagement de la ville où on a travaillé, ou peut-être dans d'autres, ou s'il y avait d'autres membres du public qui étaient là et qui intervenaient ailleurs, que voilà, je pense qu'à terme, on va écouter ce genre de propos et on va se rendre compte que, effectivement, avec les évolutions des 30 dernières années des villes, le piéton est délaissé, le cycliste est délaissé. Il faut peut-être revenir un peu à ces questions-là quand on réfléchit soit à la création de nouveaux quartiers, soit au réaménagement de quartiers existants.
Ça reste toujours un combat pour faire prévaloir un minimum de respect.
Voilà, c'est exactement ça, c'est des histoires de respect. Même quand on travaille sur l'urbanisme, et on fait en sorte que la population puisse s'exprimer sur comment ils voudraient voir évoluer le développement de tel ou tel village, telle ou telle ville, c'est toujours tout simplement une question de respect, c'est une histoire de dire, les citoyens ont leur un mot à dire, ils ont le droit de s'exprimer sur ces questions-là. J'irais presque même jusqu'à dire, ils ont le devoir de s'exprimer.
Est-ce qu'on peut, comme ça, expliquer ce qu'est le long terme ?
En fait, quand on travaille sur ces questions-là, on est dans des notions d'intérêt public. Et le public, il a besoin, il a envie qu'on s'occupe de son cadre de vie à tous les stades de la vie. Les gens à qui on a affaire aujourd'hui en ado ou pré-ado ne vont pas forcément rester là toute leur vie, mais s'ils ne restent pas, il y en aura d'autres. Et donc, on travaille à l'échelle des vies humaines. On espère le plus souvent qu'il va y avoir des décisions prises suffisamment vite pour que les personnes qu'on implique dès le départ en tirent les bénéfices. Mais il faut quand même aussi réfléchir à très long terme. Je vous ai dit, on est basé dans l'Hérault. Je prends un autre exemple. Dans l'Hérault, c'est le département qui reçoit le plus de population. Plus de 1000 personnes nouvelles viennent s'installer dans l'Hérault tous les mois. Ces gens-là, où est-ce qu'ils vont s'installer? Dans quelles conditions ils vont s'installer? Si on dit tout simplement ils vont venir inévitablement, l'essentiel c'est de les loger, ça va créer des gens malheureux qui ne vont pas avoir un accès facile à leur logement, qui vont s'externaliser pour aller faire leurs courses, aller trouver des services, etc. Donc voilà, tout ça, ça doit se réfléchir à court terme, mais avec une perspective à long terme.
Oui, il y a urgence. On sent un flux des villes vers les campagnes, et même à Dieppe, puisque une perspective municipale prévoit un ajout d'un millier de populations d'ici 10 ans pour pouvoir redresser l'économie locale, c'est-à-dire créer les commerces, peut-être des activités salariales. Bon, je ne sais pas sur quels critères il se base.
Voilà. On est complètement dans la question que vous avez posée tout à l'heure. Le plus souvent, nos élus et nos décideurs vont regarder un peu les moyens budgétaires dont ils disposent et se dire, la réponse, puisqu'on est un peu dans la panade, la réponse, c'est d'accueillir plus de monde. Parce que plus de monde, ça veut dire plus d'impôts. Mais ça ne veut pas forcément dire plus de bien-être pour les gens qui vont venir. Ça ne veut pas dire qu'on garantit des emplois pour les gens qui vont venir s'installer. Et donc ça peut créer des problèmes sociaux, ça peut créer toute une série d'autres problèmes aussi, l'accaparement des terres qui peuvent avoir une utilité agricole. C'est intéressant dans cette vallée qui s'appelle la bio-vallée maintenant, de réfléchir à ces choses-là et pas juste de se dire « tiens, il me faut plus de monde pour payer plus d'impôts ».
Vous avez des exemples concrets de ce que vous pratiquez, par exemple la manufacture des paysages. Vous faites quoi exactement alors ?
On apporte des conseils, je le disais tout à l'heure, aux collectivités. Et comment on le fait ? En fait, de plus en plus, les lois récentes sur l'urbanisme prévoient un fort degré de concertation avec les habitants. La concertation, c'est pas de l'information, c'est pas de la consultation, c'est travailler avec, faire en sorte que les habitants s'impliquent. La plupart des collectivités ne savent pas faire ça et personne ne leur jettera la pierre. Moi, je suis élu municipal moi-même, on n'apprend pas à faire ce genre de choses. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous, à la manufacture ? On propose nos services pour gérer cette concertation. En ce sens, on va aider la collectivité à faire en sorte que les décisions qu'elle va prendre par la suite sont les meilleures possibles pour l'avenir, parce que reflétant les désirs des habitants. Voilà, l'essentiel de notre travail, c'est là-dedans. Donc on apporte une compétence, une connaissance des lois, des textes, des règlements, etc. Mais on les met au service de la population pour que la population puisse décider comment ils veulent évoluer, puisque notre principe de base, c'est qu'une décision prise collectivement est forcément plus intelligente qu'une décision prise seule.
Et en général, est-ce que vous pensez, trouvez-vous que les collectivités sont un peu désemparées par ces initiatives ? Comment les organiser, justement, ces concertations ?
Parfois, oui.
Oui, et comment êtes-vous abordé par ces collectivités ? Comment vous faites-vous connaître ?
Alors, je pense qu'ils sont désemparés. Je pense qu'une partie des difficultés, c'est que beaucoup de gens, une fois qu'ils sont élus, ne vont pas reconnaître qu'ils n'ont pas les compétences nécessaires pour... Mais bon, encore une fois, je disais, on ne va pas leur jeter la pierre, puisqu'il faut en avoir tellement de compétences. Mais enfin, faire en sorte que d'autres personnes viennent se mêler du développement de votre commune, pour certains élus, c'est assez difficile. Ma foi, pour faire cette démarche-là, de venir demander à une association comme la nôtre de venir travailler, il faudrait aussi qu'ils soient déjà sensibilisés à la question. Donc c'est déjà un gros problème. Ce qui explique pourquoi il n'y a pas toutes les collectivités qui viennent demander nos services, et heureusement, on serait complètement débordés. On travaille peut-être davantage pour des groupements intercommunaux. On travaille par exemple pas mal pour des parcs naturels régionaux, puisqu'on travaille partout en France maintenant. L'intérêt de cela, c'est qu'eux, ils ont le personnel pour réfléchir à la chose. Ils ont la volonté de faire en sorte que la concertation se fasse conformément à la loi. Et quand on fait ça, bon, on est en contact avec les élus locaux qui, eux, peuvent trouver la démarche intéressante et la répéter à leur niveau.
Par hasard, le parc naturel régional du Vercors, vous y travaillez ?
Alors, nous n'avons pas travaillé pour la... Moi, j'ai été en contact avec le PNR du Vercors, mais dans une autre vie. J'étais paysagiste dans une autre vie et je gérais une autre association qui faisait de la formation et de la sensibilisation au paysage. Et en dehors du fait que j'ai aussi vécu là-haut, à Lens en Vercors, j'ai effectivement fait des actes de sensibilisation, etc., au sein du PNR, oui.
Et alors, le métier de paysagiste, c'est du long terme ?
Ah, c'est du très très long terme. Mais parfois, il faut regarder des milliers d'années en arrière pour essayer de comprendre comment le paysage a évolué, pour en prendre l'essentiel de façon à nous aider à regarder vers l'avenir. Quand on fait de la lecture de paysage, ce qu'on fait, c'est d'essayer de faire en sorte que les gens comprennent ce qui s'est fait, comment le paysage a évolué, de façon à mieux les armer pour imaginer l'avenir. Je l'ai fait ici, puisque j'avais créé un CPE à Sainte-Croix-en-Diois sur le thème du paysage, et j'ai animé des séances de lecture de paysage juste au-dessus de Die, par exemple. On montait sur les collines, on avait une vue plongeante, et là on voyait la vieille ville et ensuite les anneaux successifs de développement. Et là, ça nous permet d'amener les gens à une réflexion sur quelle logique dominait autrefois, pourquoi c'était tout concentré comme ça, pourquoi petit à petit ça s'est relâché, qu'est-ce qui a changé en matière de valeur et qu'est-ce qu'on peut imaginer faire demain pour mieux gérer le paysage dont tout le monde dit que sur les franges des villes, dit comme d'autres, c'est en train de partir en miettes, quoi.
J'étais en train d'imaginer la ville de Die, effectivement, avec son bourg et ses anciennes portes et ses murailles. Et puis le développement commercial d'activité qui ressort. Et ensuite, le côté agricole. Hein.
Oui.
Vous verriez comment, par exemple, Die, puisque vous l'avez vu de haut.
Oui, je pense que la première chose qu'il faut préconiser, c'est qu'on retourne au système précédent qui était basé beaucoup sur, non pas des calculs économiques, mais sur la construction de la vie en commun. Les ruelles sont étroites, c'était entre autres pour se protéger contre les envahisseurs, contre le soleil, contre la neige, enfin que sais-je, ça dépend des lieux, mais il y a une logique à ça. Personne ne voudrait qu'on revienne à cette logique aujourd'hui et personne ne voudrait que les gens aient absolument besoin d'aller s'installer dans des logements mal éclairés, sonores, etc. Mais comprendre pourquoi ça s'est fait comme ça et l'adapter à la situation d'aujourd'hui nous permettrait peut-être de densifier un peu plus les quartiers extérieurs et en les densifiant, prévoir qu'il y ait de la vie aussi, que les gens qui habitent à un kilomètre et demi du centre aient accès eux aussi à des services, eux aussi à des commerces, sans forcément avoir à traverser la petite rocade qui tourne autour, etc.
Quelle est cette profession qui vous a amené à fréquenter et à créer, par exemple, la manufacture des paysages ou d'être proche de Relier?
Alors moi, j'ai un parcours assez sinueux, mais effectivement, j'étais paysagiste pendant assez longtemps, comme je disais, essentiellement dans une association qui faisait de la sensibilisation. Est-ce à cause de mes origines britanniques que je suis moi-même sensible à ce genre de choses et je voudrais faire profiter d'autres de cette façon de voir les choses? Je ne sais pas, j'ai fait des études comme tout le monde. J'ai commencé par des études de marketing, donc ça n'a rien à voir. J'ai compris assez vite que je m'étais fourvoyé. Et puis après, j'ai commencé à m'intéresser au paysage par les parcs et jardins et puis progressivement au paysage à plus grande échelle. À l'époque, on était très peu de paysagistes à intervenir sur le paysage à grande échelle. On nous appelait des paysagistes d'aménagement. Aujourd'hui, je constate qu'il y a beaucoup de gens qui sortent des écoles de paysage en France, y compris Versailles, qui sont sensibles à ce genre de choses et qui peuvent apporter leur concours, non seulement pour la création de parcs et jardins, mais aussi pour aider les architectes, les urbanistes, etc., dans cette approche de l'intégration du bâti dans le paysage, la préservation des terres agricoles, etc.
Là, on va venir sur Relier. Donc, quel est le sentiment général de Relier par rapport à ce qui s'est dit aujourd'hui?
Oui, Relier est un organisme intéressant. Vous savez que c'est une sorte de fédération d'associations. Il y a des gens qui adhèrent à titre individuel. Moi-même, je suis membre à titre individuel, mais j'y suis venu par l'associatif. Et il y a ici représenté beaucoup d'associations. Ces associations sont assez largement porteuses de projets innovants, de réflexions innovantes. Et Relier nous sert un peu de socle pour mener cette réflexion. C'est très utile pour des organismes comme les nôtres. La manufacture des paysages, c'est 10 administrateurs relativement actifs, mais seulement 10 administrateurs, seulement 3 salariés. On est un peu seul, mais il y a Relier, où on peut rencontrer d'autres, on peut comparer nos pratiques, etc. Et parfois être complémentaires. D'ailleurs, dans l'assistance ici, il y a d'autres associations avec lesquelles on a travaillé aussi. On a monté des opérations de temps en temps.
Cette semaine, il y avait aussi des rencontres prémices qui sont organisées par une SCOP qui s'appelle Solstice, basée à Cré. Et là, pareil, ce discours est d'essayer de reconstituer un peu les vies dans les villages. Et on peut le voir tout de suite en regardant toutes ces vitrines qui sont vides, ou même des logements qui sont vides. Comment peut-on penser à repeupler, par exemple, un village avec des nouvelles constructions, alors qu'il existe déjà des bâtiments qui sont plus ou moins occupés dans l'année et qui ne participent même pas à l'économie locale, à part aller dépenser son argent au supermarché, c'est tout. Comment peser le pour et le contre de ça et essayer de contrecarrer?
Je pense que votre question, on se la pose tous et en permanence. Hein, comment on peut tolérer qu'il y ait des telles choses qui se passent, que c'est des sortes d'injustices même, que les centres-villes soient complètement délaissés et qu'on bâtisse à la périphérie des zones qu'on ne peut appeler que zones d'ailleurs, qui ne sont pas des quartiers, sans vie, etc. Donc nous, c'est pour répondre à ces questions-là qu'on essaye d'apporter... qu'on essaye d'apporter des réponses. Parmi les réponses qu'on apporte, il y a justement, je reviens à votre question précédente, Relier, c'est très utile pour nous parce qu'il faut mener une réflexion de fond sur ce qui doit changer. Nous, on essaye de le faire en permanence, mais ici, c'est encore plus riche parce qu'il y a plein d'autres partenaires. On est persuadé que le modèle que vous décriviez là tout de suite, c'est le résultat d'une dérive technique, sociale, mais surtout économique. Donc il y a des choses qui sont à changer dans nos modèles. Il faut pas avoir peur de le dire. La difficulté qu'ont les administrations et même les collectivités, c'est qu'ils ne peuvent pas trop secouer les cocotiers. Ils agissent dans un carcan administratif un peu rigide. Nous, on peut être des agitateurs, on peut amener à réfléchir à qu'est-ce qu'il faudrait changer. Je vais donner un exemple. On parle assez régulièrement de ces histoires de colonisation des terres agricoles par le bâti, des gens qui retiennent des terres parce qu'à terme, ça pourrait devenir constructible. Et à ce moment-là, ils toucheraient 10 fois le prix, etc. Ça, c'est des dérives qui sont inacceptables. Et il faut, de temps en temps, oser dire que, ma foi, il y a des choses qui peuvent changer là-dedans. Si on avait une approche collective au foncier, on pourrait peut-être annuler une partie de ces dérives. Alors, bien entendu, on va me prendre pour un retour au coco des années 40, des années 50, etc.
Et puis on est en démocratie,
tout le monde fait ce qu'il veut. Mais moi, si je le dis, c'est que j'ai espoir un jour de le faire, de le voir réaliser. On essaye toujours d'avoir ce côté un peu pratique et d'être assez réaliste. Moi, je suis persuadé que si on ne le fait pas, ce genre de choses, si on ne mène pas une réflexion, c'est pas forcément, allez, on collectivise tout, et puis après, c'est l'État qui distribue, etc. Mais il y a des formules à trouver qui permettent d'enrayer ces difficultés, ces dérives. Et c'est ici qu'on construit petit à petit les idées pour tout ça, pour faire des propositions par la suite de ce qui pourrait changer. Je vous donne un autre exemple. Un des sujets ici, c'est l'habitat temporaire. parce que Relier s'est beaucoup penché sur cette question. Moi, j'ai eu l'occasion de défendre des jeunes qui s'étaient installés en yourte dans le département de l'Hérault et qui se faisaient attaquer devant la justice parce qu'ils n'avaient pas de permis de construire. La raison du refus du permis de construire de la collectivité était basée sur une chose très très simple. Si vous accordez un permis loin de la ville, en tant que maire, vous ouvrez la porte à des demandes de propriétaires à qui vous l'avez accordé, peut demander ensuite à être raccordé au réseau électrique, assainissement, route, etc. Tout cela n'a plus de sens maintenant, parce que le couple en question que je défendais, ils étaient complètement indépendants. Ils avaient leur propre production énergétique, électrique. Ils avaient leur propre système d'assainissement. Ils faisaient de mal à personne. Ils ne demandaient pas de bitume sur la route, etc. Et là, on voit effectivement que la société a évolué, mais la loi n'a pas évolué. La non-évolution de la loi fait en sorte que le maire, il ne vous voulez pas prendre le risque de créer un précédent en ordonnant le permis.
Est-ce qu'il existe pour relier à un écho dans le monde politique et voir modifier la législation dans ce domaine,
pense. Il existe, oui. Relier travaille beaucoup avec une autre association qui s'appelle ALEM, Habitat Léger et Mobile, qui, elle, a pris le parti d'aller attaquer régulièrement les décideurs. Les sénateurs, ils se font recevoir par les sénateurs, par des membres du gouvernement, etc., pour argumenter un certain nombre de choses. Donc ça, c'est une démarche. Il y en a une autre qui consiste tout simplement à faire en sorte que la population elle-même soit sensibilisée à ces questions-là, et progressivement, la demande émane du terrain pour que les choses évoluent.
Eh bien, Muret, merci de vos paroles au micro. Il y a un moyen de voir votre travail, par exemple, sur Internet.
Oui, nous avons un site Internet. Il suffit de taper « Manufacture des paysages », tout attaché dans un moteur de recherche, et vous tombez sur notre site. Ouais.
Eh bien, merci Muret, et puis bonne continuation pour ce week-end. Au revoir.